Encore faudrait-il un bouton pour bloquer Internet pour les petits et les grands? Faut-il se rationner pour se désintoxiquer? Internet et les réseaux sociaux sont-ils un fléau ou une richesse?
D'abord, cette tribune, elle a vocation à quoi? À poser le débat. Soyons clairs, hein, il ne s'agit absolument pas de venir de façon dirigiste dire « voilà ce qu'il faut faire ». Au contraire, elle ouvre beaucoup la réflexion et j'espère la conversation. Et d'une certaine façon, j'ai l'impression que l'objectif est plutôt atteint avec peut-être un premier constat. Commençons par là. Je veux dire, c'est extrêmement préoccupant ce qui se passe dans notre rapport aux écrans. Qui me dira le contraire? Et cela vaut pour les enfants, on en a beaucoup parlé dans votre sujet, comme pour les adultes, soyons honnêtes. C'est à la fois de la captation d'attention, du guidage des émotions. Ça pose un certain nombre de problèmes démocratiques, on le sait bien, avec notamment les manipulations diverses et variées. Mais c'est aussi, plus généralement, une violence en ligne qui se déploie. Je vais vous donner juste quelques chiffres, si vous me permettez, parce qu'il y a une enquête qui vient de sortir aux États-Unis de la part d'un chercheur qui s'appelle Jonathan Haidt, que je vous conseille vraiment d'aller regarder, qui vous montre comment les choses se sont précipitées ces dernières années. Sur ces 10 dernières années, vous avez une augmentation des dépressions et de l'anxiété qui a été augmentée de 50%. Vous avez un taux de suicide chez les 10-19 ans qui a été augmenté de plus 48%.
Ça a à voir avec le Covid, ça. Ça, c'est indépendant du Covid.
Et en fait, il fait justement tout ce travail d'investigation et il constate qu'en fait, c'est ce qui se passe en ligne et c'est le rapport aux écrans. Et pardon, juste pour rester sur le taux de suicide... Chez les jeunes filles de 10 à 14 ans, ce taux de suicide a été augmenté ces 10 dernières années de plus 130%. Franchement, on ne peut pas juste se désintéresser du sujet et considérer que ce n'est pas un sujet politique. Alors certains me disent, j'ai bien vu hein, les commentaires qui ont été faits, mais c'est aux internautes, à ceux qui utilisent le numérique, de se...
S'autoréguler.
Mais pardon, mais vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser au moment où on s'est rendu compte que les accidents de la route... C'était une calamité à ces gens qui disaient ben, ils n'avaient qu'à conduire plus prudemment qui refusaient qu'on instaure des régulations comme la ceinture de sécurité.
Je suis gêné parce que, à mains égards, je pourrais être d'accord avec vous, mais sur le fond, je suis...
Sur le diagnostic, vous êtes d'accord?
Oui, bien sûr. D'ailleurs, les chiffres du Pew, on les a sortis à l'Institut Montaigne il y a 6 ans. Ouais. Ils sont affolants et je crois que c'est... Après, corrélation ne vaut pas causation. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on observe... une explosion du suicide à l'adolescent aux États-Unis, qu'on a démontré aujourd'hui qu'il y avait un lien absolu avec l'usage des écrans. Il y a une vraisemblance assez forte à cet égard. Mais je trouve, en fait, ce qui me gêne, c'est cette argumentation qui consiste à dire on contrôle le temps. C'est une antithèse de ce que la recherche dit. Voilà, la recherche, tout ce qui existe là-dessus, la seule chose qu'a trouvé la recherche à propos d'addiction à l'égard des écrans, c'est concernant le jeu vidéo. Là, on a des travaux qui sont un peu académiques, assez sérieux là-dessus. Pour le reste, ça n'existe pas. Mais surtout, il existe tout un tas d'éléments sur lesquels on pourrait travailler en tant que régulateur, qui sont la recommandation. On parle de dégroupage de la recommandation, c'est-à-dire faire en sorte que ce ne soit plus les plateformes qui fassent la recommandation. Ça, c'est un vrai sujet. Et j'ai envie de vous dire... Non, ça n'est pas vrai de dire que c'est jamais l'intelligence qui l'emporte. Je veux dire, moi,
Quant à ce que propose Internet et le numérique au sens large, c'est ça que vous dites.
Si vous voulez, je trouve ça extrêmement ostraciste. C'est consiste à dire, finalement, si vous lisez pas Molière le soir, en fait, vous n'êtes pas dans le coup. C'est extraordinaire. Et c'est pour ça, moi, que je me bats, que je me lève le matin. C'est justement de faire en sorte que ce soit l'intelligence qui l'emporte. Et je suis en désaccord fondamental avec vous lorsque vous dites ça. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui accèdent... Je veux dire, je pourrais même vous mettre une accusation assez brutale de dire vous avez été ministre de l'Éducation, mais est-ce que vous êtes assuré que la mobilité sociale remontait? Non, la mobilité sociale décroît dans l'éducation. Donc, aller déporter le coup sur les plateformes et sur les réseaux sociaux, je trouve ça un peu fort de café, pour être franc.
Oui, évidemment, je pense que...
Chez les ados et chez les adultes?
Bien sûr. Ouais. D'ailleurs, la revue Wired, qui est une revue très réputée américaine, a montré que les plus connectés, ce sont les 35-49 ans. À l'inverse de ce que l'on croit, même si, en effet, il y a toujours ce phénomène de projection des parents par culpabilité. Je crois que d'un côté, le problème de la question du temps d'utilisation n'est pas forcément la meilleure des réponses, même si c'est
intéressant. C'est-à-dire limiter le temps contre un
La question du temps, passer dessus. évidemment. Mais ce qui est vrai, c'est que oui, en tout cas dans mon livre, je l'évoque, c'était dire qu'il y a des ressorts addictogènes puissants, ce qu'on appelle la captologie de l'attention, puisque le nouveau modèle économique, c'est l'économie de l'attention, donc il faut y rester le plus longtemps possible. Et il y a des stratégies totalement diaboliques qui, en effet, est-ce qu'elles viennent révéler qu'il y a d'autres problèmes plus profonds que nous, on observe en pédopsie depuis peut-être 10-15 ans, c'est-à-dire aussi une tendance, par exemple, à la question au fond de cette forme d'idéal, de réussite, de performance, de beauté, de bien-être à tout prix. D'ailleurs, la grande étude qui est parue dernièrement, vous savez, sur la santé des jeunes de l'Université de Bordeaux, où 41,6% des 18-24 ans évoquent qu'ils vont mal, ce qu'ils mettent en premier, c'est cette question-là. C'est la question de la pression. Il y a des formes de réussite.
Et je crois sont véhiculées par les réseaux sociaux.
Les réseaux sociaux amplifient. C'est ça la question. Ils viennent amplifier des phénomènes très nord-californiens, disons les choses aussi, qui sont aussi une culture de la réussite, du so amazing, de beaucoup de choses qui finalement ne vont pas forcément en lien, même si la France est un pays très élitiste aussi.
Une chose importante, c'est que dans cette tribune, je ne propose pas qu'on limite à 3 gigaoctets par semaine. C'est ça qui est intéressant. C'est que, en fait, je mène une réflexion, je pousse jusqu'à l'absurde cette réflexion.
Mais il y a
il nous faut nous rationner. Oui. Imaginons que nous soyons limités. Que ferions-nous de ce temps limité ? En fait, moi, j'aborde la question de la consommation. Ce n'est pas la question de la liberté d'expression ou que sais-je, c'est la question de la consommation. De la même façon que quand on sait que la consommation de tel ou tel produit est problématique pour notre santé, mettons glyphosate par exemple, eh bien on va réguler, on va limiter cette consommation-là. Eh bien de la même façon, dès lors qu'il est avéré que c'est problématique de passer autant de temps devant les écrans, si nous nous rationnions, si nous avions, voilà, en effet, moins de consommation, comment prioriserions-nous ?
Ça va créer des parasites.
La rareté oblige à une certaine sagesse.
Je pense que c'est elle qui m'appelle pour me déstabiliser au moment de la fin.
Non, Gilles Babinet.
Non, écoutez, encore une fois, je suis très en désaccord avec tout ça. Je pense qu'on vient de voir à l'instant que la notion de temps n'est pas à la bonne échelle. La notion d'octet n'est pas non plus.
Alors quel est le bon paramètre ou le bon...
Vous pouvez avoir des réseaux qui sont extrêmement peu quantitatifs en données. Je pense par exemple à Twitter et qui peuvent être extrêmement corrosifs, extrêmement agressifs, extrêmement déstabilisants. Et donc c'est pas le bon paramètre. Il faut poser les bases du débat sur des paramètres qui sont dans la mesure du possible académiques, scientifiques, etc. Et que ces deux paramètres sont faux. Alors, on a publié un rapport qui s'appelle Notre attention, s'il vous plaît, où on précisément, la première partie de l'ouvrage est sur cet aspect de quels pourraient être les bons paramètres. Donc je regrette que ce ne soit pas l'objet du débat ici, mais on explique effectivement que la complexité, notre capacité à appréhender la complexité est un élément essentiel d'épanouissement et que ben voilà, c'est un paramètre qui n'existe pas toujours dans beaucoup de réseaux sociaux. Ou en tout cas, la façon dont les algorithmes sont conçus font que ça mobilise certaines capacités cognitives et qui ne sont pas forcément celles qui nous permettent d'appréhender la complexité. Voilà, évidemment, c'est plus compliqué à énoncer dans une tribune, dans le Figaro. Je suis désolé, mais je suis gêné parce que si on doit faire de l'esclandre pour interpeller, pour qu'il y ait sur 28 minutes finalement un débat sur ce sujet.
C'est pas l'esprit du lieu, mais.
Ben, je suis un peu gêné parce que je trouve que c'est mal posé. Bon. Les questions qui sont mal posées font qu'à la fin, on débat pas des bonnes solutions.
Et qui a été publié et relayé dans un American Pediatric. Oui. Qui montre que finalement, ce n'est pas tant le temps d'écran, mais c'est le contexte dans lequel on regarde les écrans. Enfin, là, ça veut dire qu'on est dans une problématique plus compliquée, qui est celle finalement du contexte culturel, psychologique, social, dans lequel, justement, l'écran fait écran. Mm-hmm. Sur d'autres problématiques plus lourdes, sociales, et je dirais que c'est un problème politique. Je pense que vous avez eu raison, à travers ce que vous avez proposé, de manière assez provocante, de reposer une vraie question sur, finalement, voilà, la manière dont... comment est-ce que ces écrans viennent, malheureusement, créer un bonheur numérique pour suppléer un malheur bien réel. Parce que c'est une réalité. J'ai été interrogé par un grand groupe du GAFAM sur la question du bonheur numérique. Parce que ce qu'ils souhaitent, c'est notre bonheur. Au détriment du bonheur... Non, mais si. Au détriment du bonheur réel.
Lorsque les GAFAM de la Silicon Valley souhaitent notre bonheur.
Le bonheur, c'est un bonheur qui engendre beaucoup d'argent.
Bien sûr.
Mais on sait très bien, donc ne soyons pas naïfs. Donc ce qui est vrai, c'est que comment arriver à capter l'intelligence des jeunes et des parents par rapport à cette capacité à pouvoir se dire qu'on a le droit de se distraire. Moi, je ne pense pas qu'on se distrait totalement forcément sur Wikipédia. On peut avoir TikTok et se distraire. Mais néanmoins, et je suis contre certains ayatollahs de la déconnexion à tout prix, parce que je trouve que c'est excessif et c'est très culpabilisant. Et beaucoup de parents se sentent tout le temps coupables. Ils sont épuisés qu'on n'arrête pas de leur donner des injonctions.
En Chine, on soigne les gens. C'est pas pour autant qu'on va fermer les hôpitaux chez nous, parce qu'il ne faudrait pas faire comme les Chinois. Vous voyez, à un moment donné, les observateurs qui s'intéressent de près au sujet vous disent que les enfants chinois, en réalité, ils sont confrontés à des contenus de meilleure qualité compte tenu de la réglementation qui a été mise en place. Et vous savez qu'ils n'ont pas accès au même type de TikTok que celui
que nous avons,
nos enfants, n'est-ce pas? Donc ça, déjà, ça devrait vous interroger sur les manipulations, parce que c'est aussi des manipulations géopolitiques. Moi, je pense qu'il faut qu'on se protège. À partir du moment où on est d'accord pour reconnaître que nous sommes influençables et que les entreprises, les GAFAM, etc., les entreprises de technologie l'ont parfaitement compris et qu'elles nous manipulent pour retenir notre attention, même parfois sous des dehors tout à fait anodins. Vous êtes en train de regarder une série Netflix, comme par hasard, le prochain épisode va se lancer directement, l'algorithme va vous présenter des choses. C'est des choix contraints. Votre liberté est cannibalisée. Donc reconnaissons que nous sommes influençables et apprenons à nous protéger de tout cela.
Les enfants, de la propagande de meilleure qualité, parce que c'est de la propagande.
Les enfants, les élèves chinois.
Non, mais c'est
du contenu éducatif.
Ça. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Vous comparez une dictature avec une démocratie et vous dites que les contenus dans une dictature sont de meilleure qualité. C'est ce que vous avez dit.
Enfin, je suis quand même très étonnée parce que, a priori, le Conseil du numérique s'intéresse quand même à ce qui se passe en effet en Chine, s'agissant encore une fois des contenus éducatifs qui sont offerts aux enfants. Et vous savez très bien qu'il y a cette différence évidente. Enfin, j'invite tout le monde à se renseigner pour
Fantastique.
Comprendre.
Fantastique. Enfin, les bras m'en tombent. Pour être vraiment franc, au-delà de ça. Là où on se rejoint, c'est, je pense que, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est le fait de, si on veut vraiment être ambitieux, audacieux, le fait de contrôler les algorithmes qui sont à l'origine de ce que l'on observe sur ces réseaux, ça c'est quelque chose qui serait une contrainte forte sur les plateformes.
Très bien. Bon, alors là, vous...
Ça fait partie de ces grands questionnements, à quel âge doit-on, puisqu'on sait que je crois qu'en France c'est 9 ans, c'est très très jeune, et ça pose des vraies questions, c'est-à-dire au fond le portable comme un fil à la patte, les parents utilisant le portable comme un outil de surveillance.
Exactement,
On le sait, comment est-ce que au fond le rituel d'offrir un portable sera un nouveau type de rituel en disant voilà, c'est un outil d'autonomisation.
C'est un passage.
C'est un passage.
Rituel.
Après, ça c'est une question... Qui se pose, c'est-à-dire avec même la commission qui est en train d'avoir lieu, nommée par Emmanuel Macron, suite à sa conférence de presse. C'est-à-dire quand l'État cherche à être ce qu'on appellera en psychanalyse un grand surmoi, entre autres parental. Et la parentalité, avec laquelle je travaille beaucoup, est très infantilisée. Au fond, on la déresponsabilise. Et mon travail, c'est comment travailler... Comment aider les parents à retrouver une place de responsabilité citoyenne vis-à-vis des enfants et dans leur capacité, pourquoi pas, mettre des limites. Quand l'État commence à mettre des limites et vient dans la vie privée des parents, là, ça me pose il y a vraiment un souci qui est peut-être justement cette tendance très verticale à infantiliser les parents.
Najat Vallaud-Belkacem, vous avez limité votre usage de téléphone?
Pour conclure, voisin.
Je le redis, cette tribune que j'ai rédigée, j'ai s'adressé aussi à moi.
Oui, c'est ça.
D'ailleurs, elle commence comme ça, commence par « j'ai un problème ». Parce que beaucoup d'observateurs ont dit « mais elle donne des leçons à la Terre entière ». Mais pas du tout, c'est aussi, c'est nous tous en réalité. Donc moi, juste sur les parents, pour conclure, je suis, en tant que parent, confrontée exactement à tous ces questionnements-là. J'observe ce que vous avez décrit en Espagne, que ces mouvements sont en train d'arriver aussi chez nous. Dans de nombreux pays, vous avez même des parents qui font des procès contre TikTok, etc., en justice, compte tenu des effets terribles sur la santé mentale de leurs enfants. Moi, je pense que les parents, en fait, ils doivent être en effet accompagnés. Ils sont complètement dépassés. Ce sujet est devenu le sujet numéro un de tension familiale. Tu as trop fait d'écran, pas assez, etc. Donc, il faut qu'ils soient accompagnés. Et pour être bien accompagnés, il faut qu'il y ait une norme qui vienne du haut.